Salut, c'est François Bouet pour le nouvel automobiliste Road Story et Automatin. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon essai du Ford S-Max 2022 qui est un hybride non rechargeable, un monospace 7 places et qui fait presque 1200 km avec un plein. Le Ford S-Max est le dernier des Mohicans, le dernier des monospaces hybrides classiques disponibles sur le marché automobile français. Il a aussi un grand frère Galaxy, mais c'est la même chose, c'est Ford et la même motorisation. Et donc, quand on a des enfants, on sait que le monospace reste le produit idéal pour se déplacer en famille. C'est certes un peu moins sexy qu'un SUV, mais largement plus pratique. Vous allez le voir, une large part de cet essai est consacrée à l'intérieur. Et oui, à un monospace, cela donne beaucoup de choses à dire côté habitabilité et confort intérieur. Pour découvrir le S-Max, je me suis dit qu'il ne serait pas bête d'aller faire quelques achats de champagne à Reims. On trouve les excuses qu'on veut. L'occasion, en partant de région parisienne, de faire un peu d'autoroute, de la départementale et de la route de campagne, en faisant un détour par Épernay. Et puis, arrivé à destination, j'ai pu circuler dans le centre-ville de Reims, puis reprendre l'autoroute pour entrer de nuit et sous la pluie. En plus de ce trajet, j'ai pu faire un aller-retour en Normandie où, chargé avec les affaires de mes trois adolescents, les impressions ressenties lors de mon voyage champenois se confirmeront. Eh bien, commençons par l'espace avant. Le S-Max nous offre une position de conduite peu surélevée, plus proche d'une berline, loin d'autres monospaces tels que l'espace et très loin d'un SUV. Au final, la position de conduite n'est pas désagréable, d'autant plus que l'exemplaire qui m'a été prêté est une version sport S-Line. Pour papa pressé qui ne veut pas de SUV, souvent peu dynamique côté châssis. Une fois assis au volant, c'est très facile de trouver sa position de conduite avec des réglages tout azimut, des sièges électriques et de la colonne de direction. La couloir centrale est gigantesque et abrite un espace de rangement énorme. Et oui, avec le S-Max, la praticité et les espaces de rangement ne sont pas un vain mot. Le tableau de bord fait un peu daté, mais la finition est tout à fait acceptable. Mais je ne suis pas très exigeant sur le sujet, donc allez voir la voiture et vous vous ferez un peu plus votre idée par rapport à vous, votre niveau d'acceptation. Mais revenons à la planche de bord qui, elle, très grande, c'est sûr, et elle dégage beaucoup d'espace vers l'avant et donne une luminosité et une visibilité très appréciables. Le petit écran d'infodivertissement marche très bien. Il est rapide et exempt de bugs. C'est une qualité de plus en plus rare dans nos jours. Nous nous sommes habitués avec les nouvelles générations de véhicules, en particulier électriques, à de très grands écrans. Finalement, ce n'est pas si insupportable de survivre avec un écran plus compact, mais aussi plus intuitif, rapide et sans bug, et puis avec tout plein de boutons encore. Pour ceux qui ne savent pas, bug, ça veut dire un écran qui reste bloqué sans raison apparente. Seul défaut d'ergonomie que j'ai pu relever, on ne peut pas régler le chauffage quand la caméra de recul est activée. Un détail, mais des fois un peu pénible. Côté électronique, la synchronisation du téléphone se fait très rapidement et intuitivement là aussi. Le système audio fourni de série ne se targue pas d'un partenariat avec une grande marque de matériel audio. Mais pour autant, le résultat est plus qu'honorable, même à l'écoute des musiques exigeantes côté sonorité, comme de la musique classique ou du jazz. Une bonne qualité musicale, des sièges avant chauffants, une boîte automatique, une sellerie cuir. Sur la version vignale, sur la version que j'avais, c'était un mix tissu. Vous l'avez compris, j'ai un peu l'impression de naviguer dans le luxe, ou tout du moins dans un certain luxe. À l'arrière, il y a trois zones. Les sièges de rang 2, le rang 3 et le coffre. Au rang 2, au niveau des portières arrière donc, la largeur utile est très importante et les trois sièges, séparés, se fractionnent aux petits oignons, chaque siège étant indépendamment monté sur glissière. Point à retenir, les dossiers peuvent s'incliner vers l'arrière, ce qui permet d'être bien installé avec le dos incliné comme l'on veut. Mes enfants ont apprécié ce réglage dont bénéficient rarement les passagers arrière. C'est une vraie source de confort sur de longs trajets, lieu d'utilisation de prédilection de ce grand monospace. Les sièges du troisième rang, eux, s'éclipsent électriquement sous le plancher et même s'ils sont moins confortables que les trois situés devant eux, ils font le job. C'est le manque d'espace au niveau des pieds pour allonger les jambes qui est gênant plus que la forme des sièges eux-mêmes. Cette banquette reste un outil de dépannage pour des adultes plutôt que des sièges destinés à de longs trajets. Pour des enfants, c'est au contraire la possibilité d'être éloigné des parents et de vivre sa vie pendant le voyage. Enfin, parlons coffre. Celui-ci garde un volume acceptable en mode 7 places avec 285 litres. On arrive à caser des bagages pour 5-7 personnes, Peut-être pas pour de longues vacances, mais pour un week-end, cela reste envisageable. En repassant en version 5 places, on atteint un volume gigantesque de 630 litres et jusqu'à 2020 litres, tout fauteuil rabattu. Ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour partir en vacances d'été ou au ski en toute sérénité. Par contre, le cache-bagage est juste une galère à démonter et à remonter. Il n'y a presque pas d'espace pour le sortir du coffre et quand on doit le remonter, rien n'indique comment le mettre dans le bon sens. Et en configuration 7 places, on est obligé de l'enlever pour avoir les sièges 6 et 7 utilisables. Et là, on ne sait pas quoi en faire. Pour ceux qui ont connu la Citroën C3 pluriel, cela me fait penser à la gestion des arches latérales. Quand on les démontait pour avoir un superbe cabriolet, on ne savait pas où les mettre. Pour conclure, quelques mots sur le hayon arrière. L'emplacement de la poignée du hayon est bizarre et n'est pas facile à attraper. La vitre du hayon est très verticale et l'on passe son temps à faire fonctionner l'essuie-glace. Faute de quoi, la visibilité est très dégradée, car le flux aérodynamique ramène sur la vitre arrière poussière, eau, saleté. Vous devrez toujours être à niveau de la glace, sinon votre champ de vision arrière sera largement réduit. Il est temps de prendre le volant. Et la première des choses que je remarque est que je ne suis pas obligé d'enlever l'avertisseur de changement fil à chaque redémarrage. Un grand confort. Le régulateur adaptatif se règle plutôt facilement, tout en n'étant pas toujours parfait dans son fonctionnement. Ces interventions souvent très anticipatives et intrusives perturbent la conduite sur autoroute, en particulier et même quand il y a peu de trafic. Pour une auto qui commence un peu à dater, le radar de recul est très efficace et sensible. Il permet même de prévenir l'arrivée latérale de véhicules que vous ne voyez pas quand vous reculez. Sur autoroute, pas de souci. Le niveau sonore est très bas, pas de bruit aérodynamique, la tenue de cap n'est jamais perturbée, même avec beaucoup de vent latéral. Sur petite route, notre monospace, imposant, 5,12 m de long et lourd, une tonne 8, est très agréable à conduire, très dynamique, avec des trains roulants très sérieux associés à une direction précise. Seul petit défaut de notre auto d'essai, le cumul de la suspension ST-Line plutôt sportive et de joints de porte en manque de silicone faisait que l'on pouvait les entendre couiner, les joints de porte, sur les petites routes de campagne autour d'Épernay. Si la suspension de la version ST-Line est sympa en conduite dynamique et sur autoroute, il faut reconnaître qu'elle est un peu raide en ville. Le choix d'une finition titanium business et vignale donnerait plus de confort à ceux qui le souhaitent. Côté performance, le moteur est un 4 cylindres de Ford cylindrée maintenant, 2,5 litres développant 150 chevaux, qui s'additionne à un moteur électrique de 40 chevaux, pour donner une puissance cumulée de 190 chevaux. Le bruit du moteur est assez peu agréable et m'a fait penser à la sonorité de certains 3 cylindres, c'est tout dire. Et non. Finalement, c'est un 4 cylindres à cycle Atkinson, donc un mélange pauvre, au fonctionnement assez rugueux. Sur les premiers kilomètres, on se surprend à l'entendre en phase d'accélération et puis on l'oublie à partir du moment où l'on roule en souplesse. Un mode de conduite qui correspond plus au tempérament de ce gros monospace que de rouler à l'attaque. Autre grande révolution, même si la boîte de vitesse est une courroie, un CVT, elle ne patine plus en continu, mais se verrouille de façon régulière. Fini le sentiment de patinage continuel. Elle se verrouille en simulant des passages de vitesse, que cela soit à la décélération ou à l'accélération. J'ai à côté de chez moi une très grande côte, la côte des Gardes à Chaville, pour ceux qui connaissent le 78. C'est un peu le juge ultime pour évaluer une boîte à embrayage continu type CVT. Celle du Ford se comporte plutôt bien, j'ai pu en pleine côte réaccélérer, certes doucement, mais sans avoir à écraser la pédale et sans l'entendre crier. Que ce soit en ville, sur départemental ou sur autoroute, on peut accélérer assez fort sans faire rétrograder et crier le CVT, comme cela a été auparavant le cas chez Ford et avec la large majorité des boîtes CVT des marques concurrentes. Dans tous les cas, si l'on met le pied au plancher, cela pousse de façon très raisonnable avec un 100 km/h atteint en moins de 10 secondes. La batterie lithium-ion du système hybride est très petite, avec une capacité de seulement 1,1 kW. Si elle fournit essentiellement son énergie au moteur électrique en phase de démarrage ou de relance, on peut aussi arriver à rouler en 100% électrique. Cela demande une certaine habitude, mais on peut rester en full électrique sur un filet de gaz lancé sur départemental ou sur autoroute. C'est assez bluffant. Seul regret, il n'est pas possible d'avoir une récupération d'énergie très importante façon one pedal et que l'on peut trouver sur certaines voitures électriques. On regrette ainsi de ne pas pouvoir recharger plus la mini batterie qui mériterait d'être peut-être un peu plus grosse pour rouler plus souvent en 100% électrique. De façon générale, je n'ai pas trouvé le toucher de pédale d'accélérateur très agréable. Sur route, en utilisation thermique, la pédale est trop dure, il faut appuyer fort et on a du mal à maintenir une vitesse constante, en particulier sur autoroute. Et oui, il faut utiliser le régulateur, mais je suis un pénible. En tout électrique, la pédale est ultra sensible en marche arrière comme en marche avant. Ce n'est pas évident de faire des manœuvres de parking dans ces conditions. Ne parlons pas de l'adresse qu'il faut avoir du pied droit quand la manœuvre est à réaliser en côte. Suivant le mode de propulsion où l'on est, on ne sait jamais vraiment quelle va être la réponse de l'accélérateur. On s'habitue, certes, mais certaines manœuvres restent un tout petit peu acrobatiques. Et arrivons sur le sujet très important sur un hybride, la consommation. Sur départemental et en mixte périurbain, l'hybride et la récupération d'énergie nous ont permis de descendre à une consommation moyenne de 5,5 litres au 100. Bel exploit pour un bébé de 1900 kg. Dès que l'on est sur autoroute, à environ 130-140 km/h, la consommation grimpe autour de 7 litres. Même si l'on joue avec les 190 chevaux, la consommation ne dépassera pas les 7,5 litres au 100. Une consommation qui se rapproche des valeurs d'un diesel de puissance équivalente. Côté autonomie, avec un réservoir de 65 litres, c'est bien agréable de voir s'afficher au compteur 1158 km d'autonomie. Et je pense que c'est même, on doit pouvoir faire plus. Performance, hélas, impossible avec une voiture électrique. Le tarif de base du Ford S-Max se positionne à 45 750 euros, soumis à 740 euros de malus, auquel s'ajoute le nouveau malus pénalisant les véhicules dépassant les 1 tonne 8. Dans notre cas, 1 500 euros de surmalus complémentaire. Cependant, il ne faut pas oublier que les familles constituées de 3 enfants pourront de plus déduire ces deux taxes de leurs impôts. Comme d'habitude, chez Ford, le rapport équipement-prix est très avantageux. Les équipements sont pléthoriques. Reconnaissance des panneaux de signalisation, régulateur de vitesse adaptatif, détection d'angle mort, aide au maintien dans la voie, clé main libre, feu de route automatique, climatisation tri-zone, siège et volant chauffant, sellerie cuir Alcantara ou full cuir en fonction des niveaux d'équipement, pare-brise chauffant. Côté interface avec l'écran central, vous avez droit à Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Screen, le tout pouvant répondre via une commande vocale. Cet essai, alternant trajet de vacances et de week-end, route de nuit et sous la pluie, m'ont fait découvrir un Ford S-Max vraiment fait pour dérouler du kilomètre. Un volume intérieur bluffant à 5 adultes nous auront permis de voyager dans un confort supérieur à des berlines dites de luxe. Et pour ne rien gâcher, entre un prix très compétitif et des consommations très contenues, le coût d'utilisation du S-Max est beaucoup plus performant qu'un SUV concurrent. En tout cas, définitivement à intégrer dans votre shopping list, même si votre shopping list n'intègre que des SUV. À bientôt et n'hésitez pas de retrouver cet article sur le nouvel automobiliste. Allez le regarder, de nombreuses photos et des compléments sur les informations techniques et tarifaires. À bientôt!